Je vais appeler tout de suite Isabelle Moureau et le docteur Philippe Barrès pour la deuxième partie, donc qui va être un peu plus courte puisque ça ne va durer qu'une heure, avec peut-être un peu moins de temps en question. Et avec cette partie donc intitulée « Conception de la maladie et implication dans le diagnostic de part et d'autre de l'Atlantique ». Docteur Barrès, vous voulez aussi me rejoindre? On vous entend.
Alors,
bien.
Bonjour, merci. Je suis très fière en tant que présidente d'APICIL Agir Carco de participer à ce congrès qui est si éminemment utile pour nos allocataires. En soutenant les entretiens de la Fondation Recherche Alzheimer APICIL Agir Carco, accompagne sur la durée des projets qui sont porteurs d'espoir pour les malades et leurs familles. Le fonds social de notre institution de retraite complémentaire a pour vocation de soutenir des structures qui œuvrent pour accompagner nos allocataires qui sont touchés par les maladies qui sont liées au vieillissement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer, elle connaît malheureusement un développement assez important en France. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la fois à la recherche, mais aussi au financement des structures d'accueil. Alors, nous finançons des secteurs qui sont dédiés dans les établissements. Il y a des accueils de jour et des lits d'hospitalisation. Je laisserai tout à l'heure le docteur Barrès, qui fait partie qui est à l'hôpital des Sources, qui fait partie de notre parc d'établissements Univie Agir Carco, vous expliquer le dispositif qui est créé à Nice et les conditions d'admission. Pour finir, il ne faut pas oublier que cette maladie, elle a un corollaire, c'est celui du quotidien des familles. Et pour pouvoir avoir une politique d'accompagnement qui est efficace et complète, notre fonds social soutient également des dispositifs comme des lieux de parole, des lieux de répit et une plateforme d'information qui s'appelle Ma boussole aidante, qui permet aux familles aidantes de reprendre pied dans un quotidien qui est malheureusement rythmé par les soins. Donc vous trouverez les informations dans le petit stand qui a été créé à cet effet dans la salle qui se trouve à côté en sortant de la salle à droite. Voilà. Pour terminer, soyez sûrs que nos institutions de retraite Agir Carco sont donc à votre écoute dans tous ces moments qui sont difficiles et que mon rôle en tant que présidente, c'est d'étudier et de voter le financement de projets qui sont utiles dans ce domaine. Maintenant, si vous me permettez, je vais laisser la parole au docteur Barrès. Merci.
Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Merci. Oui, on peut applaudir, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Donc, docteur Philippe Barrès, neurologue très connu ici, en tout cas, et qui travaille à l'hôpital privé gériatrique Les Sources, un hôpital fondamental et qui rend des services énormes à la population ici, et notamment celle qui est atteinte de ces troubles.
Alors, je dis quelques mots sur la structure où je travaille, donc l'hôpital privé gériatrique Les Sources, qui n'est pas une structure privée au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire sans aucun but lucratif.
Hein. Absolument.
Nous y tenons tous beaucoup. Et comprend un centre mémoire labellisé, c'est-à-dire en relation avec le centre expert de Nice, dont vous avez entendu celui qui le dirige, le professeur Sacco, tout à l'heure. Et donc, dans cette structure, nous avons une consultation dédiée, qui est notamment animée en participation avec mon collègue psychiatre, docteur Pierre Bonhomme, qui, il y a de très longues années, avait fondé la consultation mémoire de l'établissement, un vieil ami, un vieux complice. Et donc, il y a cette consultation dédiée et il y a donc une journée d'hôpital de jour dans la semaine qui est dédiée donc, aux consultations mémoire où nous avons créé quelque chose qui est pluridisciplinaire. Nous y tenons beaucoup avec donc un partenariat entre un gériatre, un psychiatre, un neurologue, des neuropsychologues Selon les cas, également, intervient une orthophoniste ou également peut intervenir une assistante sociale. Voilà. C'est une structure dans laquelle on a une grande file active qui est, je crois, à peu près de 800 patients par an, qui existe donc depuis de longues années et qui, je l'espère, donne satisfaction.
Pas trop de délai d'attente ?
Il y a un important délai d'attente comme partout. Hein, voilà. J'exerce aussi à titre libéral, ce qui permet, si vous voulez, une complémentarité intéressante. Voilà. Alors, j'ai souhaité vous parler de la maladie d'Alzheimer en faisant une sorte d'échanges, hein, en soulignant les échanges qu'il y avait de part et d'autre de l'Atlantique entre les auteurs français et européens et d'autre part les auteurs américains, puisque ce que nous savons aujourd'hui de cette maladie, les conséquences qu'il y a dans le diagnostic, ce dont je vais parler, mais aussi ce dont je ne parlerai pas parce qu'on ne peut pas parler de tout, les conséquences d'un point de vue thérapeutique, sont quand même très liées à la culture qu'il y a, d'une part, aux États-Unis. Quand je parle d'Amérique du Nord, en fait, c'est essentiellement les États-Unis, parce que les Canadiens, souvent, fonctionnent plus avec les Européens. Hein. D'une part, les États-Unis, d'autre part, donc, les Européens. Alors, on va avancer. Voilà, tout commence, je pense que beaucoup le savent, en Allemagne en 1906, donc lorsque l'auteur qui donna son nom à la maladie, il avait l'humilité de ne pas d'ailleurs lui donner son nom lui-même, mais c'est son maître, ce qui est assez remarquable, son maître Kraepelin, qui était un très grand neuropsychiatre de l'époque, qui a donné à cette maladie le nom de son élève, Alzheimer, vous remarquerez quand même l'élégance, parce que malheureusement, parfois, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Voilà. Donc, en 1906, cet homme, dont vous avez certainement dû déjà voir la photo, va décrire la maladie d'Alzheimer. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ce qui est très, très intéressant, c'est que, dès le départ, et ce n'est pas vrai dans toutes les maladies, par exemple dans la maladie Parkinson, ce n'est pas vrai, mais dès le départ, il a décrit un tableau clinique et les lésions du cerveau qui en étaient responsables. Donc d'emblée, il a défini une maladie, c'est-à-dire à la fois des lésions et des signes cliniques. Cette maladie, à ce moment-là, est apparue comme une maladie dégénérative, mais comme on dit, présénile, c'est-à-dire tout touchant les gens qui ont, je veux dire, à peu près mon âge, quoi, hein, dans les 50, 60 ans et quelques, et non pas comme une affection touchant les sujets très âgés. Cette maladie a été présentée d'emblée comme rare et incurable. Et les deux lésions qui ont été décrites d'emblée par Alzheimer. On a toujours les photos de ces études au microscope. Ce sont d'une part les plaques séniles, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amylose, c'est-à-dire des dépôts protéiques qui sont entre les cellules du cortex du cerveau, et d'autre part, les dégénérescences neurofibrillaires. Les dégénérescences neurofibrillaires, ce sont des anomalies de protéines différentes qui sont à l'intérieur des cellules. Essayez de retenir ça parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Alors, pendant de longues années, et lorsque moi-même j'ai entamé mes études de médecine, c'était encore comme ça, on est resté avec cette idée que c'était donc une maladie présénile et une maladie qui était toujours une démence très grave, mais rare. Nos conceptions n'ont pas bougé, en fait, de 1906 aux années 70. Aux années 70, on passe de l'autre côté de l'Atlantique, on est aux États-Unis, et là, il y a un certain nombre d'auteurs, particulièrement des neuropathologistes. Les neuropathologistes, ce sont ceux qui sont les spécialistes de l'étude des tissus, de l'étude du tissu cérébral en l'occurrence, eh bien les neuropathologistes se sont rendus compte que les lésions de cette maladie d'Alzheimer, présénile, rare, se retrouvaient chez la plupart des personnes qui avaient ce qu'on appelait alors une démence sénile, c'est-à-dire ces troubles cognitifs sévères qui peuvent survenir chez les personnes âgées ou très âgées. Et même si le tableau clinique peut varier selon l'âge, plus ou moins, eh bien, on s'est rendu compte que c'était une seule et même maladie. Donc, si vous voulez, cette maladie qui était vraiment noyau de cas que seuls les neurologues connaissaient est devenue une maladie qui a une ampleur extraordinaire et qui est devenue même, à travers ça, un enjeu de santé publique. Donc, vous voyez, la maladie a changé de dimension. Elle a changé de dimension et elle a permis d'abandonner cette sorte de mépris qu'on avait pour ces personnes très âgées qui avaient ces troubles cognitifs évolués. Hein, c'est une démence sénile, c'est normal, c'est lié à l'âge, il n'y a rien à faire, voilà, il est gâteux, terminé. Bon. Et ça, si vous voulez, ça nous a permis de dépasser ça. Ça a été une avancée considérable. Et là, je pense que l'on peut vraiment donc rendre hommage aux Américains. Alors, j'allais dire, c'est là que ça se gâte. En 1984, il y a un organisme officiel, NINCDS-ADRDA, c'est un nom, un acronyme totalement impossible à retenir. J'ai mis des années à m'en souvenir. Et on a cet organisme qui a défini la maladie d'Alzheimer et parallèlement l'Association des psychiatres américains qui est toute puissante dans le monde entier, qui a une sorte de diktat qui s'exprime à travers une nomenclature qu'on appelle le DSM, qu'on ne peut pas oublier, qui est une bible, ce qui est d'ailleurs extrêmement choquant parce que bon, même s'il y a des choses très intelligentes dedans, c'est tout à fait hégémonique. Mais enfin bref, donc je passe là-dessus. Donc ces deux associations, si vous voulez, ont défini la maladie d'Alzheimer comme une démence. C'est-à-dire que quand on a la maladie d'Alzheimer, on est dément. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose que les familles, parfois les patients, reçoivent en pleine face. Et c'est quelque chose, si vous voulez, c'est une situation qui est en quelque sorte bloquée. C'est une maladie qui commence à la démence. Ce qui est complètement idiot. Comment voulez-vous qu'une maladie commence à ce stade où on a perdu ses repères, où on n'a plus d'autonomie, etc. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Et cependant, à partir de ces années-là, 1984, puis les années qui ont suivi, on en est resté à cette idée. Et il n'y a que quelques années qu'on est arrivé à sortir de ce concept qui était vraiment absurde. Au départ, ça pouvait se concevoir, on n'avait pas toutes les notions qu'on a aujourd'hui. Mais bon, le problème, c'est que ça a duré 20 ans. Alors, par la suite, il y a eu, alors là, ce qui pour moi est une arnaque scientifique, on a eu un concept qui est apparu aux États-Unis, apporté par un auteur qui s'appelle Ronald Petersen, qui est le MCI. Je suppose que la plupart d'entre vous ont bien entendu une fois ce nom. Le MCI, ça veut dire mild cognitive impairment, c'est-à-dire trouble cognitif léger. Cet auteur a, dans le but légitime d'ailleurs, de donner un statut au sujet qui avait des troubles cognitifs sans pour autant être dément. Donc vous voyez, on essaie un peu de dépasser la définition initiale. Donc, son but, c'est de donner un statut à ces personnes qui ont des troubles cognitifs sans être dément et qui vont éventuellement évoluer vers la démence. Et là, d'ailleurs, ils emploient un terme totalement inadapté, emprunté au langage religieux, qui est la conversion. Comme si, tout d'un coup, quelqu'un qui a des troubles cognitifs légers, paf, se convertissaient à la démence. Je trouve, enfin, vraiment, ce terme a été reproduit dans un certain nombre de maladies. Ça encore, c'est quelque chose d'idiot. Alors, le problème, c'est que ce fameux MCI n'a jamais vraiment été défini. Je ne peux pas partir dans les détails, mais croyez-moi sur parole, il n'y a aucune définition claire. On n'a jamais su à quoi ça pouvait servir. Dans la mesure où il n'est pas défini, évidemment, on ne peut pas l'utiliser. Et puis, il y a eu quelque chose à la fois de risible et de désastreux, qui est qu'à partir donc de ce concept complètement flou, les laboratoires pharmaceutiques qui font beaucoup pour la recherche, hein, il ne faut pas systématiquement leur jeter la pierre, mais là, se sont engouffrés là-dedans en se disant, ben voilà, on va sortir des médicaments adaptés au MCI, on va éviter qu'ils convertissent en Alzheimer et on va gagner beaucoup d'argent. Voilà. Mais en fait, ils en ont perdu énormément. Ils en ont perdu énormément parce que toutes les études qui ont été faites sur ces MCI n'ont jamais rien donné et pour cause, le statut de ces patients n'était pas défini. Ce qui est terrible, c'est que l'immense majorité des auteurs français, comme dans le monde entier, se sont jetés sur ce concept. Voilà. Il fait partie, évidemment, à mon humble niveau, des rares qui, tout de suite, ont dit que c'était une imbécilité. Et là, on en arrive en Europe en 2004. Et là, Bruno Dubois, je regrette qu'il ne soit plus là, mais je serais certainement tout rouge de parler de lui.
Il est là ?
Voilà.
Ah, il est quand même parmi nous.
Monsieur.
Ah, vous voulez revenir, hein ? Il va parler de vous.
Vous allez assister à un hymne à Bruno Dubois.
Oh là là. Vous avez le livre ?
Donc, à ce moment-là, Bruno Dubois, qui donc guide un certain nombre d'auteurs européens, va proposer de reconsidérer la maladie d'Alzheimer, de la reconsidérer en prenant en compte le fait que cette maladie n'est jamais d'emblée une démence, évidemment. Elle commence forcément avant que le patient ait atteint ce stade qui, en fait, n'est que le terme ultime de la maladie. Et c'est ainsi que défini le concept de maladie d'Alzheimer prodromale, c'est-à-dire maladie d'Alzheimer s'exprimant cliniquement par des symptômes qui, cependant, n'entraînaient pas de perte d'autonomie, ne pouvaient être qualifiés comme un état démentiel. Et même, dans la mesure où le processus en cause qui aboutit à la maladie se développe forcément de façon extrêmement lente, on a pu définir un stade préclinique. Ainsi, il y a, aujourd'hui on sait qu'il y a de longues années, peut-être même 25 ans, pendant lesquelles la maladie commence à se développer insidieusement sans aucun signe, c'est le stade préclinique, puis certains symptômes apparaissent sans conséquences majeures, et vous imaginez que c'est à ce moment-là qu'on peut espérer en faire le diagnostic. Et ce n'est donc que plus tard que ce qu'on appelle démence, qu'aujourd'hui on appelle plus volontiers trouble cognitif majeur, va se manifester. Tout cela, évidemment, se passant de façon très lentement progressive. Le terme de conversion du MCI que j'évoquais il y a un instant n'ayant aucun sens. Alors, à partir de là, le groupe donc guidé par Bruno Dubois, je suis extrêmement gêné, monsieur, de parler devant vous. Donc, ce groupe va définir la maladie d'abord à travers son noyau. Cela n'est que le noyau, il y a beaucoup d'autres symptômes, mais il y a vraiment un élément qui est extrêmement caractéristique. C'est un trouble particulier de la mémoire, que l'on appelle un trouble hippocampique, c'est-à-dire un trouble de la mémoire qui témoigne du dysfonctionnement de cette zone cruciale pour la mémoire qui est située vraiment dans la profondeur du cerveau, dans la, dans la région interne du lobe temporal, qui est d'ailleurs un cortex très ancien dans l'évolution, qui s'appelle l'hippocampe. À partir de là, le diagnostic donc est centré sur ce trouble, mais il va faire appel à d'autres paramètres qui ne sont plus des paramètres cliniques et que l'on appelle les biomarqueurs. Les biomarqueurs, ce sont les examens complémentaires que sont la ponction lombaire, l'IRM, des examens que l'on appelle la scintigraphie. Aujourd'hui, c'est PET ou TEP, c'est-à-dire tomographie par émission de positons. Voilà. Dans ces définitions vont être intégrées, à côté de ces maladies d'Alzheimer typiques, qui sont avec au premier plan des troubles de mémoire, d'autres formes atypiques. Il y a des maladies d'Alzheimer, surtout chez les sujets un peu jeunes, qui commencent par exemple par des difficultés de langage, ce qu'on appelle aujourd'hui les aphasies primaires progressives. Il va envisager donc ce cadre particulier de maladies d'Alzheimer de stade préclinique. Vous savez peut-être qu'il existe à peu près 1% des maladies d'Alzheimer qui ont un déterminisme génétique, c'est-à-dire qui sont vraiment conditionnées de façon formelle par ses parents, de telle sorte qu'il y a un risque sur deux d'avoir la maladie. Eh bien, dans le cadre de ces maladies, on peut parler de stade préclinique, des moments où la personne a le gène pathologique. C'est-à-dire que, hélas, inéluctablement, d'ailleurs c'est toujours à peu près au même âge dans une même famille, eh bien on sait que le patient va déclarer la maladie. Donc avant, il est à un stade préclinique. C'est terrible parce que ce sont des maladies qui surviennent chez les sujets jeunes et qui évoluent très très rapidement. Mais si vous voulez, de notre côté, ce sont ces patients-là grâce auxquels on peut faire avancer les choses parce qu'on sait quels patients vont développer la maladie. Donc avant même qu'elle apparaisse, vous voyez, on peut leur donner des médicaments et on peut tester ces médicaments qui après seront utiles à tout le monde.
C'est bientôt fini, pardon. Le temps est court, là. Vous avez dépassé de 2 minutes, j'ai rien dit, mais je vais me faire gronder après par les organisateurs.
Bon, et quand même pour un petit moment. Est-ce que c'est permis ou pas ?
Je crois qu'ils avaient précisé
sinon,
15 minutes.
Oui, il faut que je m'arrête vite.
Oui, on va retarder les suivants, malheureusement.
Ça va être rapide. Ça, ce sont les 5 mots, c'est le test présenté par Bruno Dubois qui permet d'étudier donc, cette mémoire hippocampique. Là, vous voyez, c'est une IRM. Ici, les hippocampes, c'est ça. Eh bien, là, ils sont normaux. Là, ils sont atrophiés. Vous voyez, il n'y a plus qu'un petit bout. Ça, c'est un PET scan. Eh bien, les parties postérieures du cerveau, ici, fonctionnent moins bien. Et la ponction lombaire, eh bien, dans la ponction lombaire, on a certaines protéines qui sont élevées, d'autres qui sont diminuées. Ça, c'est vraiment, en France, aujourd'hui, le critère vraiment formel. Alors, je continue, 5 minutes.
Oui. Maximum, parce que sinon on va prendre beaucoup de retard et on va se faire virer de la salle.
Aux États-Unis, en 2011, les Américains vont reconsidérer la maladie en s'inspirant des travaux de Bruno Dubois, mais vous voyez, ils reparlent de MCI, on se demande pourquoi, et sans toujours le définir, et ils vont réserver les biomarqueurs à la recherche. Alors, bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais il y a...
Ça nous a été un peu présenté.
Ça vous a été présenté. Donc, vous savez qu'il y a, au départ, donc, dans la plupart des cas, pas dans tous, ces dépôts d'amylose, et vous savez que, secondairement, ils vont induire, donc, la dégénérescence neurofibrillaire que l'on voit ici progresser dans le cerveau. Ça, c'est nous quand on atteint 70-80 ans. Et puis, si on allait, les gens normaux parmi nous, en quelque sorte, si on allait jusqu'à 140 ou 150 ans, on serait tous peut-être déments avec ça. Mais heureusement, chez la plupart des gens, ce processus est très, très lent. En revanche, dans la maladie d'Alzheimer, du fait de l'amylose, ce processus d'expansion des dégénérescences neurofibrillaires sera beaucoup plus rapide. Et au lieu d'être atteint en 50 ou 60 ans, ce stade-là, à partir de là, eh bien, ça sera atteint en 10 ou 20. Voilà. Je vais passer là-dessus. Et alors, en 2016, il y a une sorte de cessez-le-feu, c'est-à-dire que les différents auteurs, tant européens qu'américains, ont défini diagnostic de maladie d'Alzheimer préclinique en expliquant qu'à ce moment-là, il fallait les deux lésions présentes. Donc les deux lésions sont présentes, le patient n'a pas de symptômes, mais on sait que la maladie va arriver. Et donc, le problème, c'est que cet auteur, Clifford Jack, qui est l'auteur en vogue aux États-Unis, lui a proposé de réduire la maladie, presque fini, de réduire la maladie à sa présentation biologique. C'est-à-dire qu'ils ont dit, il suffit qu'il y ait de l'amylose pour que la maladie soit là. Or, deux choses. Un, tous les gens qui ont de l'amylose dans le cerveau n'auront peut-être pas la progression de dégénérescence neurofibrillaire. Par nous, il y en a certainement un certain nombre qui en ont. Et deuxièmement, il y a un certain nombre de patients qui n'ont jamais eu d'amylose et qui ont quand même la dégénérescence neurofibrillaire. C'est-à-dire qu'ils insistent sur l'amylose, alors qu'en fait, l'amylose est le point de départ chez la plupart des gens, mais pas chez tous, et ce n'est pas elle qui fait la maladie. Ce qui fait la maladie, c'est la dégénérescence neurofibrillaire. C'est elle qui est responsable des signes cliniques. Et donc, l'amylose n'est peut-être pas la bonne cible thérapeutique. Voilà, et donc c'est une classification qu'ils ont mise au point qui s'appelle ATN, dans laquelle il suffit qu'il y ait la pathologie amyloïde pour que la maladie soit présente. Et en 2021, les Européens répondent, ils disent qu'il faut cette double pathologie, il faut revenir à une définition clinico-biologique de la maladie, comme l'avait fait Alzheimer lui-même. Ils soulignent sa variabilité et autre notion très importante, la fréquence des pathologies associées avec l'âge. Avec l'âge, très souvent, il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer, il y a des troubles vasculaires, parfois il y a des signes de cette maladie qu'on appelle la maladie à corps de Lévy diffus. Et toutes ces pathologies vont se cumuler en quelque sorte pour altérer l'état cognitif des gens. Et ils vont insister sur l'intérêt des biomarqueurs en clinique. Les Américains, soi-disant, je dirais, les réservent à la recherche. En fait, pour les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont toujours accès, évidemment, mais ça, on ne le dit pas. Alors qu'en France, tout le monde peut avoir droit aux biomarqueurs qui vont aider à diagnostiquer la maladie. Voilà, donc la conclusion, c'est que c'est une entité clinico-biologique, que l'amyloïde joue un rôle habituel, mais pas obligatoire, et que cette maladie est habituellement isolée dans ce qu'on appelle le présénium, et qu'elle s'associe dans des formes plus tardives. Donc on peut proposer, pour faire la paix entre Bruno Dubois et Clifford Jack, donc d'insister sur cette définition clinico-biologique, de donner à chaque patient la possibilité d'avoir accès à tous les outils diagnostiques. En France, c'est encore possible, mais sans entrer dans les détails, il y a d'autres examens qui utilisent la scintigraphie, le PET scan, qui pourraient nous aider à faire le diagnostic en se passant de la ponction lombaire, et qui malheureusement ne sont pas disponibles grâce aux instances sanitaires.
Ça devrait l'être bientôt.
Oui, j'espère. Et puis, enfin, en Europe, nous avons une préoccupation éthique qui est très, très importante, et notamment, la question qu'on se pose, c'est à quel moment est-ce qu'il faut annoncer le diagnostic, hein, bien sûr, comment, mais aussi à quel moment l'annoncer, ce qui est une question cruciale. Voilà, je suis désolé d'avoir dépassé mon temps.
Non, mais pas de souci. Merci beaucoup pour cette intervention très vive et passionnée. On entend que le sujet vous passionne. On a peu de temps, mais on va essayer de prendre quelques questions-réponses quand même dans la salle. Rejoignez-moi quand même. Qui souhaite poser une question? On n'a pas énormément de temps, mais néanmoins... Oui, madame, très vite, on va vous passer le micro, bien sûr. Enfin, je ne sais plus où il était, pardon.
Oui, une petite question. Est-ce qu'on peut trouver toutes ces slides, toute cette présentation sur Internet ou,
Oui,
alors... Moi, je veux dire, ce n'est pas privé. Une présentation simplifiée, ce que j'utilise pour l'enseignement, c'est tout à fait disponible, aucun souci.
Hein, donc vous les trouverez, je suppose, sur le site internet de la Fondation.
Oui, je vous le communique vraiment sans aucun problème. Hein, mais enfin, c'est un résumé. Hein, je peux pas. Il y a un numéro de la revue Pour la Science, qui est, je crois, le numéro... c'est le numéro de septembre de cette année, qui reproduit un article de la revue Nature qui est paru en mars de cette année, qui est remarquable comme synthèse et qui explique les différents essais thérapeutiques et particulièrement ce qui se passe au niveau d'une cohorte de patients qui ont des maladies familiales qui s'appelle DIAN. Donc, si vous voulez avoir des explications un peu plus fouillées sur ce que je vous ai donné, et des explications sur les avancées thérapeutiques, je crois que vous en avez un petit peu parlé.
Oui, on en a parlé.
Vous avez, vraiment, je vous conseille cet article dans Pour la science.
Mais si pour résumer votre propos, quand même, est-ce qu'on a bien compris que vous êtes presque pour un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on focalise vraiment tout l'intérêt aujourd'hui dans les phases précliniques et très tôt, ce serait une grande avancée si on allait vraiment là. Pour vous, c'est là que l'issue se trouve,
en quelque sorte. Il faut faire le diagnostic au stade préclinique, chez les personnes prédisposées, particulièrement les formes familiales, mais aussi, par exemple, beaucoup de cas dans la famille.
C'est-à-dire, vous cibleriez dépistage.
On ne peut pas faire un dépistage
systématique
ça, ce n'est pas possible. Sur les premiers symptômes, c'est-à-dire les stades qu'on appelle prodromaux.
Lesquels, soyez précis.
Les premiers symptômes, c'est les premiers problèmes de mémoire, les difficultés.
Tout le monde a des problèmes de mémoire.
Oui, mais en général, on prend pour des problèmes de mémoire des problèmes d'attention. Les problèmes de mémoire, c'est par exemple, vous posez une question, vous la reposez 5 minutes après, vous la reposez 5 minutes après. Ou alors, vous oubliez quelque chose de majeur dans votre vie.
Le prénom de votre enfant. Non.
Le problème de l'évocation des noms propres, nous l'avons tous, ne vous inquiétez pas.
D'accord.
Le fait d'aller dans une pièce et de plus se souvenir ce qu'on y est allé chercher et de revenir à l'endroit initial.
Majeur, ça va être quoi ?
Ça
va être qu'on
sait
pas.
Tout à fait normal.
On ne sait pas qu'une omelette se fait avec des œufs, par exemple.
Ah, ça c'est grave. Mais là,
c'est trop grave.
Mais là, c'est pas un stade prodromal. Ah. Ou alors, on a des difficultés à trouver les mots, ou on déforme les mots, mais je ne parle pas des noms propres ou des noms rares. Je parle de mots de tous les jours. Bon, sachant que si ça arrive épisodiquement, ça.
Donc, pour être précis, si vous deviez inciter, s'il y a plusieurs cas dans la famille, si on commence à avoir quelques troubles, vous voir à la consultation
mémoire. Dès qu'on a une plainte, il faut aller consulter.
D'accord.
Même si beaucoup se révèlent des plaintes anxieuses, il faut aller consulter. Et une dernière chose, vous avez vu, je vous ai parlé de la ponction lombaire. Eh bien, les mêmes protéines que l'on dose à la ponction de lombaire, on sait les doser dans le sang. Ce n'est pas encore suffisamment fiable pour que ce soit une aide au diagnostic, mais ça va venir peut-être même dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, dès qu'on aura un doute fort, dès qu'il y aura eu la moindre exploration, on pourra compléter par une simple prise de sang. Alors que la ponction lombaire, qui est souvent très simple, traumatise beaucoup
mais qui inquiète un petit peu. Pour vous savoir juste si c'est légitime, dans votre consultation mémoire qui est très importante, quel pourcentage de ces patients qui consultent chez vous vous envoyez vers une ponction lombaire pour savoir si...
Très peu. Entre 5 et 10%, mais si vous voulez, c'est une fois qu'on a fait tous les autres examens.
D'accord.
C'est un geste dont on a très peur, qui est en fait assez peu traumatisant, mais on ne fait pas la ponction lombaire comme ça systématiquement.
D'accord.
On fait des tests neuropsychologiques, on fait une IRM et on fait un PET scan. Et si un doute persiste, alors on fait la ponction lombaire.
Très bien. Merci infiniment pour cette présentation et ces réponses très, très, très claires. On vous applaudit.